La parole des contes avec Anne Wong.
Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans le paradis des contes, l'enfer des contes. Nous allons continuer notre exploration avec le cheval. Et nous allons découvrir les voleurs de chevaux. D'après un récit de vie de Vania de Gila qui parle de son oncle Igna, où le voleur Tzigan se fait prendre, puis chez Grimm, où le maître voleur, voleur de cheval et de toute autre chose le plus incongru, est invincible et imprenable. Alors, place au voleur de cheval, de chevaux, Tzigan. Et il commence son récit en disant qu'en 1948, il était invité à fêter Pâques chez les Tziganes Belkesti, Kelderer, près de la mairie de Montreuil. Et je fus stupéfait d'entendre chanter une chanson bien connue qui relatait les exploits de mon oncle, le voleur de chevaux. En faisant route à travers la grande forêt, j'ai été surpris par la nuit noire. Oui, c'est par une nuit noire et orageuse que mon oncle s'est élancé sur la route, enveloppé dans un large manteau de voyage. Les ténèbres déchirées de temps en temps par des traits de feu, suivis de détonations qui faisaient trembler la terre et le ciel. Oh là là, quelle nuit! Je ne me suis pas trompée en regardant les oiseaux et le ciel. Elle est même plus belle que je ne l'avais prévue. Soudain, une lueur fulgurante, en même temps qu'un effroyable fracas. Le cheval fait un écart, une odeur de soufre. Puis le craquement d'un arbre énorme qui se couche devant lui, en travers de la route. Oh, c'est mauvais signe, ça. Oh, ben, s'il fallait croire à tous les signes, c'était sans doute un vieux tronc pourri. Il en fit le tour, puis continua en direction du château. Son cheval allait à petits trots. Et tout à coup, il entend derrière lui... Il stoppe sa monture... Et l'autre cavalier se rapproche rapidement. Igna s'arrête. L'autre aussi. Mon oncle fait alors demi-tour et attend en fouillant du regard l'obscurité. Personne. Il revient sur ses pas au devant de l'invisible compagnon. Un nouvel éclair. Dans la lumière bleue, il s'aperçoit qu'il est seul, devant l'arbre abattu. Il arrête son cheval, crache sur l'arbre, fait un nouveau demi-tour pour repartir vers le château. Mais il entend plus net encore le martèlement diabolique malgré la pluie tombant en cataracte. Tonnerre de Dieu ! Et le tonnerre lui répond dans un craquement terrible. Cependant, la poursuite du pauvre Tzigan continue. Mon Dieu, mais quel cheval a donc cet inconnu pour faire trembler la terre comme une artillerie lourde ? Il se lance lui-même comme une flèche. Tonnerre de Dieu, je deviens fou. J'entends distinctement les deux galops, le mien et celui du géant. Excédé, il saute à terre, crie d'une voix rageuse et provocante. Alors, pourquoi t'arrêtes-tu ? Avance, à nous deux ! Qui que tu sois, je n'ai pas peur. Serais-tu assez lâche pour m'attaquer par derrière ? Où es-tu ? Es-tu devenu muet ? Toutes ces paroles étaient emportées par le vent et noyé par la pluie. Le cavalier invisible demeurait silencieux. Igna, ayant chassé la peur par la rage, se hâta d'atteindre le château avant la fin de l'orage. À quelques kilomètres de l'arrivée, le galop du cavalier devint si terrible que le cheval monté par mon oncle en trembla sous lui et lui-même sentit un souffle si puissant qu'il faillit en perdre connaissance. Alors, il vit. Il vit une silhouette imposante et démesurée le dépasser. D'après sa tenue, il reconnut un homme. Bien que troublé par cette apparition, il se dépêcha et atteignit enfin un bourg. Il frappa longtemps aux portes et aux fenêtres d'un cabaret. Il en connaissait le patron. Enfin, un serviteur lui ouvrit en marmonnant toutes les grossières paroles que les trois pays limitrophes pouvaient produire. Igna lui glissa un rouble dans la main et le serviteur le conduisit dans la chambre de Yankel. Celui-ci, encore ensommeillé, le reçut avec enthousiasme et voulut lui offrir tout ce qu'il possédait de meilleur. Igna lui dit « Écoute, Yankel, tu es très gentil, mais je suis pressé. Il ne faut pas que je manque le train. » Yankel s'efforçait d'ouvrir ses yeux qui clignotaient à la lumière. « Oh, t'as encore un quart d'heure ?» Et il s'affaira. « Tiens, voici la vodka, les liqueurs et les zakouskis. » Igna ne but qu'un verre de nastoïka, une vodka aux herbes, et mangea quelques rondelles de charcuterie. « Et maintenant, il me faut partir, Yankel. Ma tante Zelma, il n'avait aucune tante qui s'appelait Zelma, est mortellement malade à Riga. »« À Riga ?» demanda l'autre, étonné. « Oui, oui, elle va être opérée par un grand spécialiste de la capitale. Je ne sais combien de temps je devrais demeurer là-bas. Je te laisse mon cheval. » Tu le feras amener par Joseph, ton fils, à mes cousins, Baklashkonki. Je vais te payer maintenant. Plus tard, dit Yankel. Mais Igna lui tendit l'argent et s'élança d'un pas rapide et souple vers le château et pas vers la gare. Il prit un sentier qui conduisait en passant à travers la forêt de bouleau. Arrivé devant le domaine du baron, il réfléchit un instant, tâta ses poches, y trouva une petite scie à métaux, un mor, son kinjal, le couteau dont se sépare jamais un tzigane, et ses allumettes. Il fit un moulinet en l'air avec son grand bâton plombé, souria et se mit à longer le parc. Le voici maintenant à quelques pas de l'écurie. Un chien se met à aboyer. 10 lui répondent. Attentif au moindre bruit, il est prêt à tout. Soudain, 2 Danois s'élancent sur lui. C'est l'instant de la danse magique. Il lève les mains, les fait jouer comme des marionnettes et chantonne en sautillant d'un pied sur l'autre les paroles que les voleurs de chevaux de Zigane se passent de père en fils. Je ne les connais pas, mais les connaîtrais-je que je ne voudrais pour des millions les divulguer. Une chose est claire, ces 2 chiens féroces deviennent doux comme des agneaux. Le gardien de l'écurie a pleine confiance en ses chiens et le silence rétabli, il dort comme un mort. Igna scie tranquillement le cadenas, ouvre les portes, pénètre dans les lieux, craque une allumette et à sa flamme découvre un spectacle somptueux, des coursiers magnifiques et fringants dans leur stall. Mon oncle lui-même hésite devant de tels chevaux. Il en choisit enfin un, noir, jeune et fougueux. Dès qu'il tend la main vers lui, les talons rejettent la tête, prêts à se cabrer. Trop tard, les 5 doigts d'Igna saisissent ses naseaux comme des tenailles. Les talons se dressent sur ses pattes arrière et soulèvent le tzigane. Quand il retombe, mon oncle saisit sa crinière et en un clin d'œil lui enfile le mort, le mène dehors, saute sur son dos et disparaît dans le bois. Quand les chiens ne sentent plus la présence fascinante du Tzigane, ils se mettent à aboyer furieusement. Cette fois, le gardien s'est réveillé de son profond sommeil et court affolé aux écuries. Il découvre les portes ouvertes, le cadenas scié par terre. En un instant, tout le château est sur pied. Le piqueur mobilise les hommes et tous s'élancent à la poursuite du voleur. La pluie avait cessé. Le jour allait poindre. Au bout de quelques kilomètres, les chiens hésitèrent, flairant et tournoyant. Les piqueurs se partagèrent en deux groupes. Igna, après avoir brouillé ses traces, prit un petit sentier de la forêt. Dans la matinée, il décida, malgré sa crainte des cavaliers, de prendre un peu de repos. Se croyant en sécurité dans l'épaisseur d'un fourré, il se coucha au pied d'un chêne énorme et s'endormit. Il ne se réveilla que lorsque les aboiements des chiens l'entouraient déjà de toutes parts. Il est trop tard pour sauter à cheval. Un cavalier débouche d'un buisson. Igna enlève son manteau et le jette sur le cheval noir qui se tient à son côté, prend dans la main droite son bâton plombé, sa dague dans la main gauche, s'adosse au chêne et attend. Bientôt, cinq piqueurs l'entourent de tous côtés. Le chef crie « Haut les mains !» Igna ne bouge pas. Le cercle se rétrécit. Le chef sort son revolver et répète son ordre « Haut les mains !» Igna serre plus fort son bâton et ne bouge pas. Le gadjo tire en l'air. Igna demeure impassible. Les piqueurs se regardent. L'un d'eux tire son sabre. Le chef lui dit « Eh, nous devons le ramener vivant à notre maître !» Le gadjo acquiesce et se jette sur mon oncle. Mais ce dernier part si bien le coup que le sabre du gadjo vole par-dessus les têtes des poursuivants. Les quatre autres se précipitent au secours de leurs camarades. Il les met à mal, presque tous, bien qu'il ait reçu lui aussi plusieurs blessures. Alors qu'il se bat ainsi, des bûcherons, ameutés par le bruit du combat, arrivent avec leurs haches. Igna recommanda son âme à Dieu et pria ses ancêtres. Les piqueurs, épuisés, cédèrent la place aux paysans. Mon oncle se battait comme un ours. Néanmoins, il dut céder au nombre. Il reçut un coup terrible du manche de la hache et s'accrocha au cou du cheval. Il ne pouvait plus combattre. Il ne faisait qu'un avec sa bête. Personne ne pouvait l'en séparer. Un paysan hésita. Un piqueur arracha la hache de ses mains et d'un coup trancha l'épaule du Tzigane. Igna s'évanouit. Les poursuivants, craignant qu'il ne meure, le transportèrent chez le médecin le plus proche. Quand il reprit connaissance sur son lit, la première image qu'il se présenta à lui fut la silhouette d'un gigantesque cavalier qu'il avait poursuivi et dépassé. Et c'est à ce moment-là qu'il reconnut son aïeul, mort depuis plusieurs années, et comprit le sens de la chevauchée nocturne. Il était, bien sûr, un peu tard, mais place au Tzigane. Et je vous propose, comme petite interlude, un conte très court, le conte du cheval qui mangeait des écrevisses. N'est-ce pas ? Il était une fois un cavalier qui, passant la montagne, fut surpris par l'orage et des éclairs, des tonnerres. Malgré son manteau, son chapeau, il fut bientôt trempé comme une soupe. Et dans le vent qui s'était levé, il se sentait transi. Il arrive à l'auberge du col. Il la trouve pleine. Tant de gens devant la cheminée qu'on ne pouvait approcher. Et c'est ça dans la montagne. Dès que la pluie tombe là-haut, même au mois d'août, dans ces salles froidies, on se souvient de faire du feu. Les voyageurs étaient tous là, autour de la flamme, lui présentant les paumes. Et on sentait bien qu'à aucun l'idée ne viendrait de céder sa place. Tout grelottant, le cavalier s'approche de l'aubergiste qui était en train de tirer du pot et dégoûter un monceau d'écrevisses. « Ah, mais voilà qui va bien !» dit-il à l'aubergiste. « C'est justement ce qu'il faut à mon cheval pour le remonter après l'orage. Portez-lui donc ces écrevisses. Oh, je ne regarde pas la dépense. »«
À votre cheval, monsieur ? Des écrevisses ? Croyez-vous qu'il veuille les manger ?
S'il les mangera, vous allez voir. Portez-les lui tout de suite !»
Et toutes les têtes se tournent vers eux.
Vous entendez ? Un cheval manger des écrevisses. Ah, ça, je le croirais quand je l'aurais vu. Ah, moi aussi. Ah, je ne serais pas fâché de voir ça.
Et d'un même mouvement, ils se lèvent tous, suivent l'aubergiste et vont à l'écurie.
Oh, 5-6 minutes après, ils reviennent en troupe derrière l'aubergiste qui rapportait le plat avec son buisson rouge. De la porte, ils le montrent au cavalier.
L'autre s'était installé tout à son aise au coin du feu et il fumait comme une lessive.
Monsieur, je l'aurais gagé sur ma tête, les écrevisses, votre cheval n'a jamais voulu les manger.
Oh, ben en ce cas, c'est moi qui les mangerai, fait le cavalier. Et sans autrement s'émouvoir, sécher, chauffé, remis, il vient s'asseoir à table. Voilà pour lui.
Et nous allons passer donc au maître voleur des frères Grimm. Un vieil homme et sa femme, un jour, étaient assis devant la porte de leur pauvre maison pour respirer un peu au milieu du travail. Quand tout à coup s'arrêta devant eux un superbe carrosse attelé de 4 chevaux. Un seigneur magnifiquement vêtu en descendit et le vieux paysan se leva, alla au-devant du seigneur pour lui demander ce qu'il désirait et en quoi il pouvait le servir. L'étranger serra la main du vieillard et lui dit « Je voudrais seulement me régaler d'un plat paysan. Préparez-moi un plat de pommes de terre comme vous les mangez d'ordinaire, et je me mettrai à table avec vous. Cela me fera grand plaisir. » Le paysan s'en amusa. « Vous êtes un comte, ou un prince, ou peut-être même un duc, est-ce que je sais ? Les grands seigneurs ont quelquefois des caprices de ce genre. On va satisfaire votre désir, en tout cas. » Sa femme s'en alla dans la cuisine, laver et râper des pommes de terre dont elle voulait faire des boulettes à la mode paysanne, et pendant qu'elle était occupée à la cuisine, le paysan proposa à l'inconnu de l'accompagner à son jardin, derrière la maison, où il avait encore un petit travail à finir. Au jardin, il avait déjà creusé des trous, et il lui restait à planter de jeunes arbres fruitiers.
« Vous n'avez pas d'enfant qui puisse vous aider, vous donner un bon coup de main dans votre travail ?»«
Eh non, » répondit le paysan. « Ou plutôt, j'ai bien eu un garçon, autrefois. Mais il y a un bon bout de temps qu'il est parti de par le monde.
Oh, c'était de la mauvaise graine. Un garçon intelligent, malin. » Mais qui ne voulait rien apprendre et ne faisait que de mauvais tours. Pour finir, il s'en est allé et je n'ai plus jamais entendu parler de lui.
Tout en parlant, le vieux paysan avait pris un arbrisseau, l'avait placé dans le trou, puis il avait planté un tuteur à côté et enfin, après avoir ramené et bien tassé la terre, il attacha solidement au pied, en haut et au milieu, le jeune tronc contre le tuteur. Avec de la paille tressée.
« Mais dites-moi, » questionna l'étranger, Pourquoi n'attachez-vous pas aussi contre un pieu l'arbre que je vois là-bas, dans le coin, tout tordu et biscornu, dont les branches touchent presque le sol? Il a besoin d'être redressé, non ?
Bien sûr, monseigneur, vous parlez à votre idée. Mais on voit bien que vous ne vous êtes jamais occupé d'un jardin. Cet arbre-là est vieux, desséché et noueux. Personne au monde ne peut le redresser. Les arbres, c'est quand ils sont jeunes qu'il faut les diriger.
C'est comme avec votre fils, alors. Si vous l'aviez dressé quand il était jeune, il ne vous aurait pas quitté. Mais à présent, il doit être endurci, lui aussi, noueux et desséché comme cet arbre.
Probablement, oui. Cela fait longtemps qu'il est parti. Oui, longtemps. Il doit avoir beaucoup changé.
Et est-ce que vous le reconnaîtriez si vous le rencontriez ?
Ah, de visage, peut-être pas. Mais il a un signe de naissance, une envie sur l'épaule, qui a la forme d'une fève.
L'inconnu, à ces mots, retira sa veste, découvrit son épaule et fit voir la fève au vieux paysan.
Oh, mon Dieu ! Mais t'es vraiment mon fils !
Et son cœur en était tout ému.
Mais comment se peut-il que tu sois mon fils ? Et que tu sois devenu le grand seigneur que voilà, vivant dans le luxe et l'abondance ? Par quel chemin y es-tu arrivé ?
Ô père, le jeune arbre n'était lié à aucun tuteur, et il a poussé de travers. À présent, il est trop âgé, et jamais plus on ne le redressera.
Tu veux savoir comment je me suis procuré tout ça ?
C'est que je suis devenu voleur. Oh, n'en sois pas choqué. Je suis un maître voleur, un artiste du genre. Il n'y a pas de serrure qui tienne, pas de verrou qui existe pour moi. Ce qui me plaît, c'est à moi. Mais va surtout pas croire que je vole misérablement comme les voleurs ordinaires, n'importe où, n'importe comment, n'importe qui. Non, je ne prends que le surplus des riches et les pauvres n'ont rien à craindre. Je préfère leur donner que de leur prendre quelque chose. En outre, ce qui ne réclame point de peine, d'astuce ni de subtilité ne m'intéresse pas et je n'y touche pas.
Oh, il n'empêche que cela ne me plaît guère, mon fils. Un voleur reste un voleur, n'importe comment. Ah, ça finira mal, c'est moi qui te le dis.
Ils allèrent retrouver la mère qui pleura de joie en apprenant qu'il était leur fils et qui versa des torrents de larmes en apprenant qu'il était maître voleur. Mais la brave femme, pour finir, en conclut.
Oh ben, même s'il est devenu voleur, c'est mon fils. C'est quand même, c'est mon fils. Et mes yeux l'auront vu encore une fois.
Alors ils passèrent à table et le fils prit part une fois encore au méchant repas familial auquel il n'avait plus goûté depuis fort longtemps.
Et le père dit, si notre seigneur le comte, là-haut, dans son château, venait à apprendre qui tu es et ce que tu fais, il ne te prendrait certes plus dans ses bras pour te bercer comme il l'a fait quand il t'a tenu sur les fonts baptismaux. Il t'enverrait te balancer au bout d'une corde à la potence.
Sois tranquille, père. Il n'en fera rien. Je connais mieux l'art de ma profession. J'irai lui rendre visite aujourd'hui même. Au début de la soirée, le maître voleur alla reprendre place dans son carrosse et se fit conduire au château, où le comte le reçut avec grande courtoisie, le prenant pour quelque noble et important personnage. L'inconnu s'étant fait connaître, le comte blêmit, resta figé un long moment dans un complet silence.
« Tu es mon filleul.
C'est pourquoi je donnerai le pas à la miséricorde sur la justice et te traiterai avec indulgence. Puisque tu te vantes d'être maître voleur, je vais mettre ton art à l'épreuve. » Si tu ne t'en tires pas à ton avantage, tant
pis pour toi, tu fêteras tes noces avec la fille du cordelier, autrement dit, tu seras pendu. Et les corbeaux accompagneront tes noces de leur musique.
Cherchez et trouvez trois épreuves, monsieur le comte, aussi difficile qu'il vous plaira,
lui dit le maître voleur. Et si j'échoue, vous ferez de moi ce que vous voudrez. Le comte réfléchit un instant avant de dire « Très bien. En premier lieu, tu devras me dérober mon cheval favori dans l'écurie. » Et là, vous allez voir un autre vol de cheval.
« Et deuxièmement, tu auras à nous enlever le drap de dessous dans notre lit, à ma femme et à moi, quand nous serons couchés, sans que nous nous en apercevions. Et il faudra en outre que tu prennes son alliance au doigt de ma femme. »
Comme troisième et dernière épreuve,
tu me traîneras le curé et le sacristain hors de l'église. Tiens bien tout ça en mémoire, sinon ton coup en répondra.
Le maître voleur s'en alla à la ville voisine, où il acheta, pour le porter, le costume que portait une vieille femme. Puis il se grima le visage en brun, se peignit en cœur quelques vieilles rides, se transformant de telle sorte que personne n'eût su le reconnaître. Cela fait, il se fit encore remplir un tonnelet de vin de Hongrie auquel il mélangea un puissant narcotique. Il mit le tonnelet dans une hotte, la hotte sur son dos, et s'en revint ainsi d'une démarche lente et hésitante jusqu'au château du comte. Il faisait déjà sombre quand il s'y présenta, ou plus exactement, quand il alla s'asseoir sur une borne dans la cour et se mit à tousser comme une vieille femme bronchiteuse, tout en se frottant vigoureusement les mains comme quelqu'un qui a froid. Devant la porte de l'écurie aux chevaux, les soldats d'une garde spéciale se réchauffaient autour d'un feu. Et l'un d'eux, avisant la vieille, lui cria « Approche-toi, grand-mère, viens te chauffer avec nous. Tu ne sais pas où coucher, sans doute, et tu t'accommodes de ce que tu trouves là où tu es. » La vieille trottina vers eux, les pria de l'aider à enlever sa hotte et s'assit près du feu. « Hé, la vieille, qu'est-ce que t'as dans ton tonnelet ?» questionna l'un des hommes.
« Oh, un fameux coup à boire !» Ah, ce vin-là, c'est mon petit commerce. Ah, si vous le payez comptant et le demandez gentiment, ah, je veux bien vous en offrir un verre.
Alors, vas-y, fit un soldat. Et quand il eut goûté,
un verre de plus, c'est ce que je préfère quand le vin est bon.
Les autres suivirent son exemple avec le même enthousiasme. Et l'un d'eux appela ceux qui étaient à l'intérieur de l'écurie.
« Hola, camarades ! Nous avons ici une grand-mère avec un vin qui doit avoir le même âge qu'elle. Buvez-en aussi un coup, il vous réchauffera l'estomac, bien mieux que le feu que nous avons là. »
Portant son tonnelet, la vieille clopina jusque dans l'écurie. Ils étaient trois. Un sur la selle, un autre la main à la bride, et le troisième cramponné à la queue du cheval favori. Elle leur versa à boire autant qu'ils en voulurent, jusqu'à ce que la source fût tarie, et peu après, la main qui les tenait lâchait les rênes, l'homme glissa à terre où il commença à ronfler, le second quitta la queue pour se coucher du cheval pour se coucher par terre et se mettre à ronfler encore plus fort. Quant au troisième sur la selle, il y resta bien assis, mais se pencha en avant, le menton dans la poitrine et la tête presque dans le cou du cheval, ronflant comme un soufflet de forge. Dehors, il y avait un bon moment que les autres dormaient allongés autour du feu et gardant une immobilité de statue. En voyant son succès, le maître voleur mit un bout de corde dans la main de celui qui tenait la bride et qui était couché par terre, et un bouchon de paille dans les mains de celui qui tenait la queue du cheval et qui lui aussi était couché par terre. Mais que pouvait-il faire avec celui qui était assis sur le dos de la bête? Il ne voulait pas le remettre par terre parce qu'il risquait de se réveiller, de donner l'alarme en criant. La bonne idée lui vint bientôt.
Avisant quelques bonnes cordes suspendues au mur, il desserra la sangle de la ventrière, noua quatre bonnes cordes à la selle, lança les autres bouts par-dessus une solive et hissa le tout, selle et cavalier, pour les reposer doucement sur la grosse barre de séparation entre les stalles. Cela fait, il y fixa solidement la selle sur laquelle ronflait toujours le cavalier. Détacher le cheval ensuite ne lui demanda qu'un instant, mais s'il l'avait enfourché pour traverser la cour de son dallage, le galop eût été entendu du château. Alors il enveloppa soigneusement de chiffon les sabots du cheval, le mena prudemment à la main jusqu'à la porte extérieure et une fois là, sauta en selle et partit au triple galop. Chevauchant le cheval volé, le maître voleur s'en revint au château après le lever du jour. Le comte sortait du lit et s'était mis à la fenêtre. « Bonjour, monsieur le comte !» lui cria le maître voleur. « Je vous ramène votre cheval, que j'ai eu le bonheur de sortir de son écurie. Vous pouvez voir vous-même comme vos soldats sont gentiment allongés et comme ils dorment bien. Si vous voulez vous en donner la peine, venez constater à l'écurie le doux confort que se sont donnés vos gardiens. » Le comte ne put s'empêcher de rire à ces mots. « Bon ?» Le premier coup, tu l'as réussi, mais ta seconde opération est loin d'être aussi facile, et je t'avertis. Si je te rencontre comme un voleur, c'est en voleur que je te traiterai. Le soir, quand la comtesse fut allée au lit, elle serra bien sa main sur l'anneau de mariage, cependant que le comte disait « Toutes les portes sont fermées et verrouillées, mais je reste éveillée pour attendre le voleur. Si jamais il veut entrer en passant par la fenêtre, je tire et je l'abats. » Le maître voleur, de son côté, était allé au gibet, coupait la corde d'un pendu qu'il chargea sur son dos et porta jusqu'au château. Arrivé là, il plaça une échelle sous la fenêtre de la chambre à coucher, reprit le mort sur ses épaules et grimpa en prenant soin de s'arrêter dès que la tête du mort fut au niveau de la fenêtre. Le comte, qui veillait dans son lit, braqua son pistolet et fit feu dès qu'il vit la tête apparaître, sur quoi le maître voleur laissa lui-même tomber son mort du haut de l'échelle, redescendu et courut se cacher dans un coin. La nuit était assez claire grâce à la lune pour que le maître voleur de sa cachette pût voir le comte enjamber le rebord de sa fenêtre, descendre par l'échelle, traîner le mort jusque dans le jardin où il se mit à creuser une fosse pour l'y enterrer. C'est le moment, se dit le maître voleur, qui se glissa sans bruit jusqu'à l'échelle, monta rapidement à la hauteur de la fenêtre, toujours ouverte. « Ma chère femme, » dit-il en imitant la voix du comte, « le voleur est mort. Mais c'était mon filleul, néanmoins. Ce n'était pas un mauvais bougre, au fond. Il avait plutôt le goût de l'aventure que celui du mal. Je ne veux pas le livrer à la honte publique. Et puis je pense aussi à ces malheureux parents qui me font pitié. Je vais donc l'enterrer moi-même dans notre jardin avant le jour et éviter ainsi que l'histoire se répande. Il me faut aussi le drap du lit pour lui servir de linceul. Je ne peux tout de même pas l'enterrer comme un chien. Donne-le-moi. Et puis tiens, il faut suivre ses élans de générosité. Donne-moi également ton anneau, puisque le malheureux a risqué sa vie pour l'avoir. Je vais le lui laisser dans sa tombe. » La comtesse ne voulait pas contrarier son époux. Elle n'était pas d'accord, et c'est pas de bon cœur qu'elle retira néanmoins l'alliance de son doigt et la lui tendit, après lui avoir remis le drap du lit. Le voleur emporta les deux choses et arriva sans encombre chez lui avant que le comte eût fini son travail de fossoyeur dans le jardin. Le lendemain, quand le maître voleur lui rapporta la bague et le drap,
Le comte avait plutôt l'air déconfit.
Es-tu sorcier? Qui t'a ressuscité et sorti de la tombe dans laquelle je t'ai couché de mes propres mains?
Hé, ce n'est pas moi que vous avez enterré, mais un pauvre pendu qui se balançait à la potence.
Et le maître voleur raconta l'histoire. Le comte reprit confiance et lui dit « Ah, je reconnais que t'es un voleur très habile et très intelligent, mais tu n'es pas au bout de tes peines, il te reste la troisième épreuve à réussir, et si tu n'y parviens pas, rien au monde ne pourra te sauver. »
Le maître voleur se contenta de sourire et ne répondit point. La nuit venue, il se rendit à l'église du village avec un grand sac sur le dos, un baluchon sous le bras et une lanterne à la main. Dans le grand sac, il avait des écrevisses, dans le baluchon, de petits cierges très courts. Il alla s'asseoir dans le cimetière, sortit une écrevisse de son sac, lui colla avec un peu de cire fondue, un petit cierge allumé sur le dos, puis la laissa aller à sa guise. Il tira de son sac une seconde écrevisse, fit la même chose avec une petite cierge, un petit bout, puis une troisième, quatrième, ainsi de suite, jusqu'à la dernière écrevisse du sac. Cela fait, il enfila une longue robe noire qui ressemblait à un froc de moine et se mit au menton une longue barbe grise. Méconnaissable après cette transformation, il reprit son grand sac vide à présent, entra dans l'église et monta en chaire. L'horloge de la tour égrenait justement les 12 coups de minuit. Et dès que la vibration du dernier coup se fut éteinte, le nocturne prêcheur se mit à prêcher d'une voix retentissante. « Écoutez, entendez, hommes de péché, voici venue la fin de toute chose, le jour du jugement dernier arrive. Écoutez, entendez, qui veut aller au ciel avec moi doit se glisser dans mon sac. » « Je suis Saint-Pierre, celui qui ouvre et ferme les portes célestes. Voyez dehors au cimetière les morts qui se sont levés et qui cherchent à rassembler leurs ossements. Les âmes cherchent leur corps pour la résurrection. Venez, venez, entrez dans le sac, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde !»
Et à cette voix retentissante, les premiers alertés furent le sacristain et le curé qui demandèrent s'ils pouvaient entrer dans le sac. Le grand prêcheur les invita à entrer et dès qu'ils furent entrés tous deux dans le sac, il boucla le sac et le déposa dans un jardin à l'extérieur de l'église. Il rentra chez lui, se coucher et tranquillement, le lendemain matin, se rendit chez le comte pour lui annoncer que la troisième épreuve était réussie également. Le curé et le sacristain avaient été tirés hors de l'église. Où les as-tu laissés ? Oh, dans le jardin près du cimetière. Le comte y alla et constata « Ah, t'es vraiment un maître voleur et un grand maître !» Mais je ne veux plus jamais te revoir. Et c'est ainsi que le maître voleur passa dire adieu à ses parents avant de repartir à travers le monde et personne n'a plus entendu parler de lui. Voilà comment ce voleur de chevaux avait lui réussi. Merci de nous avoir écoutés. Moi et tous ces contes, et je vous souhaite une joyeuse semaine et à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.